We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Bienvenue dans un livre, un film pour la première de la saison 2023-2024. Il s'agira de Mystère à Venise, réalisé par Kenneth Branagh. L'adaptation, évidemment, si je puis dire, du roman d'Agatha Christie, Le crime d'Halloween, publié évidemment dans cette jolie collection orange du masque où vous pouvez trouver toutes les enquêtes d'Hercule Poirot, car il s'agit bien d'une enquête d'Hercule Poirot. Kenneth Branagh est assez connu des cinéphiles, puisqu'il est à la fois un très grand acteur, amateur des maquillages, des déguisements. C'est aussi un grand, à mon sens, réalisateur spécialement indiqué pour un livre, un film, puisqu'il commence sa carrière de réalisateur avec une adaptation d'Henri V de William Shakespeare, rien de moins, 1989, encore une fois, première réalisation de l'acteur désormais réalisateur Kenneth Branagh, avec Patrick Doyle à la musique qui va le suivre jusqu'à aujourd'hui pratiquement, et Tim Harvey au décor qui va l'accompagner dans la suite de sa carrière, donc d'adaptateur de grands textes à l'écran, avec Le Chant du Cygne, Swan Song, un court-métrage qui est l'adaptation en 1992 d'une pièce d'Anton Tchekhov, du peu. En 93, ça sera Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, Much Ado About Nothing, 93 donc, avec la musique de Patrick Doyle, les décors de Tim Harvey. En 94, ça sera Frankenstein. Alors, ce n'est pas peut-être une littérature du niveau de celle de Shakespeare, Mary Shelley, mais Frankenstein est tout naturellement l'archétype de la gothic novel, du roman gothique, et qui a eu, évidemment, en Europe, à partir de sa publication anonyme en 1818, le succès qu'on connaît, Frankenstein ou le Prométhée moderne, donc, qui a été adapté par Kenneth Branagh au cinéma sous le titre de Mary Shelley's Frankenstein, le Frankenstein de Mary Shelley, comme pour bien mettre en avant l'autrice, comme nous disons maintenant, en 1994, musique de Patrick Doyle et décor de Tim Harvey. En 95, Kenneth Branagh réalise Au beau milieu de l'hiver, In the Bleak Midwinter, oui, 95. Et alors, c'est amusant, c'est peut-être pas non plus de quoi se marrer trop, mais ce film raconte l'histoire d'un comédien qui, fauché, il a pas beaucoup de sous, alors c'est pas comme Kenneth Branagh pour ses films, on le verra, je pense. L'histoire d'un comédien fauché qui tente de monter une adaptation d'Hamlet. Voilà. Alors, quand on sait que la trilogie Agatha Christie va coûter respectivement 55 millions de dollars, 90 millions de dollars et 60 millions de dollars, on a un peu changé de cet Hamlet d'ailleurs, que Kenneth Branagh adaptera en 96. Kenneth Branagh adapte Hamlet en 96 et il s'agit de la seule adaptation du texte complet de la pièce de William Shakespeare. Encore une fois, excusez du peu, musique Patrick Doyle. Ce sera ensuite Peine d'amour perdue. Kenneth Branagh qui se permet quand même une adaptation de Shakespeare en film musical. Et puis, ce sera sa trilogie d'Agatha Christie qui commencera avec Meurtre on the Orient Express, Meurtre dans l'Orient Express en 2017. La critique a fait un petit peu la fine bouche au moment de la sortie de ces films, peut-être à cause de leur coup, on vient d'en parler, peut-être parce que Kenneth Branagh donnait peut-être le sentiment de descendre d'un cran, de passer de ce qui se fait de plus sélect en termes de littérature britannique à quelque chose, on va dire, de plus ordinaire. Je pense qu'effectivement, cette critique est tout à fait infondée, dans la mesure où Agatha Christie, c'est quand même la littérature que tout le monde aime, à un moment ou à un autre de sa carrière de lecteur, et à d'ailleurs à tous les moments d'une carrière de lecteur, un petit Agatha Christie, un petit Hercule Poirot, ça fait pas de mal. Après Murder on the Orient Express, je vais arrêter avec l'anglais parce que c'est une catastrophe. Après Meurtre dans l'Orient Express, ce sera bien sûr Mort sur le Nil. Là aussi, alors c'est le plus cher, hein, mais c'est pas le plus cher pour rien parce qu'on a quand même refait le bateau. C'est pas une petite chose. Et puis alors, c'est un casting évidemment un tout petit peu luxueux. Ça sera pour les décors Jim Clay, on change, mais par contre on conserve Patrick Doyle à la musique. Ce que je disais moi dans une émission de Fréquence 7, Cinémascope, bien connu Cinémascope, cette question de l'argent me gêne assez peu dans la mesure où, comme on dirait, on en a pour son argent, c'est-à-dire en termes de costumes, de décors, de photographies. On est un petit peu à la fête, hein. On va le voir en particulier donc pour le dernier opus, Haunting in Venice, Mystère à Venise. Il s'agit plutôt d'une histoire qui se situe dans un palais supposé hanté, donc on a un mystère qui se démultiplie plutôt qu'il n'est unique. Pourtant, effectivement, il s'agit d'un genre particulier du roman policier d'Agatha Christie qui est adapté ici. Bien sûr, il s'agit du séquel, d'une suite des aventures d'Hercule Poirot, normalement à la retraite. Il ne devrait plus enquêter, mais bon, l'amitié aidant, peut-être une certaine addiction à l'enquête aidant également, il se fend de nouvelles enquêtes. Et donc, c'est ce fameux genre du wooden it qui l'a fait, n'est-ce pas? Qui a fait ça? Qui donne effectivement aux assez romans policiers leur allure particulière. Il s'agit effectivement dans un. On va retrouver finalement une unité d'action. L'unité d'action, c'est découvrir le coupable ou les coupables d'ailleurs. J'en dis pas plus parce que là, ça serait vraiment dommage de gâcher l'intrigue de, par exemple, Crime dans l'Orient Express. Donc, trouver le coupable, ça donne une unité d'action. En général, on est dans une unité de temps. Ça se passe dans la journée ou dans la nuit ou dans une suite de nuit-journée, enfin, etc. Il y a une vraie unité de temps. Et puis, alors, une unité de lieu. Tout se passe dans une, on va dire, une circonscription fermée qui, évidemment, donne une intensité particulière au wooden it, puisque que ce soit à bord d'un train, que ce soit à bord d'un bateau, ou que ce soit alors soit dans le roman, un petit comté anglais où tout le monde se connaît, enfin, il y a vraiment une vraie fermeture, et puis Kenneth Branagh transpose ça dans un palais vénitien, la nuit, un lieu clos par excellence, enfermé par les eaux de la lagune vénitienne. Effectivement, on a une très forte unité de lieu qui préside donc au déroulement de l'intrigue. Alors, le petit prof de philo que je suis, évidemment, a des certains nombres de réflexes conditionnés, et qui dit unité de temps, de lieu, d'action, dit tragédie classique, et qui dit tragédie classique dit tragédie grecque, et qui dit tragédie grecque dit poétique d'Aristote, et la fameuse doctrine aristotélicienne de la catharsis. C'est-à-dire qu'effectivement, si ce qui se passe de plus horrible, le parricide, l'inceste, l'infanticide, si ce qui se passe de plus horrible est convenablement mis en scène et convenablement, comment dirais-je, esthétisé, mais alors au sens noble du terme, hein, eh bien, le spectateur peut se purifier, catharsis, c'est ça, la purification. Le spectateur peut se purifier des sentiments les plus puissants et les plus négatifs susceptibles de l'envahir, comme la colère, la tristesse, la dépression, d'une certaine manière, pourquoi pas, parce que les crimes horribles représentés nous permettent de revivre à distance ces choses qui sont insupportable dans la réalité. Ça donne au Wounded Knee d'Agatha Christie et au film de Kenneth Branagh cette vertu, je dirais pas soporifique, mais un tout petit peu anxiolytique, un tout petit peu antalgique. Je sais de quoi je cause. Ça donne un petit côté antalgique à cette littérature que nous goûtons particulièrement. Se mettre comme ça pour un après-midi dans un roman policier et s'enfermer 1 heure et demie, 2 heures dans une salle obscure pour voir le pire en musique. Bien-être engendré par l'esthétique de haut niveau, si je puis me permettre cette stupide allusion à une performance quelconque, mais tout de même. Effectivement, les romans d'Agatha Christie et leur adaptation au cinéma par Kenneth Branagh, c'est peut-être d'abord du bien-être, mais du bien-être obtenu, bon, certes à coup de dollars, mais aussi un tout petit peu à coup de talent. Un talent que nous retrouvons déjà dans la constitution, des personnages. Et quel personnage mieux constitué que celui d'Hercule Poirot, tellement énigmatique, tellement fantoche par certains aspects. C'est une caricature d'inspecteur, d'enquêteur. Et en même temps, malgré son côté maniaque, maniaco-dépressif, malgré, on finit par avoir une sorte d'empathie, de sympathie pour ce personnage dont on sent qu'il en a traversé des pas faciles et qu'il fait du crime son ennemi personnel, d'une certaine manière. Et Agatha Christie sait environner ce personnage, d'autres personnages beaucoup plus hauts en couleur qu'il n'y paraît. Je ne voudrais citer pour le crime d'Halloween et Mystère à Venise, le livre et le film, qu'un seul personnage secondaire, la servante incarnée par Camille Cotin dans le film de Kenneth Branagh et incarnée de manière, je dirais simplement, magistrale. Cette qualité, nous la retrouvons naturellement dans les décors qui sont merveilleusement soignés. Donc, nous avons déjà évoqué ceux des adaptations au cinéma par Kenneth Branagh, des pièces de Shakespeare. Ici, bien entendu, la trilogie christinienne, non pas chrétienne, de Kenneth Branagh, évidemment, est remarquable à travers ces décors de Jim Clay pour les deux premiers numéros et de John Paul Kelly pour ce troisième opus. Décorateur que je ne connais pas personnellement, évidemment, mais dont tout le monde peut voir le travail sur le film. C'est absolument stupéfiant, cette reconstitution d'un palais vénitien qui est chopé là autour des années 50-60, on ne sait pas bien. La nouvelle, le roman pardon, d'Agatha Christie est un roman qui se déroule autour des années 60-70, à l'abord des années 70. C'est très différent de l'Orient Express ou du Nil, où on a des romans écrits respectivement en 34 et 37 et qui se situent avant la Seconde Guerre mondiale. Là, on est clairement après, et donc dans une époque beaucoup plus proche de nous. Mais alors, dans ce palais vénitien, on est comme isolé. C'était, bon, évidemment, le but du jeu, ce lieu clos, où on a un entassement, alors déjà un entassement, évidemment, de période, comme n'importe quel touriste peut le constater à Venise. Ce palais tient du 16e, du 17e et du 18e siècle facilement, et tout ça s'empile, s'entremêle au point qu'on ne sait plus très bien à quelle époque on se situe, 20e et 21e siècle compris. Donc c'est évidemment idéal pour s'isoler comme ça d'une certaine manière esthétiquement. Et puis alors, ce palais est également, Violetta en a parlé dans Cinémascope, pour ceux qui veulent aller écouter cette première Cinémascope de la saison en replay. Il y a un empilement des étages du palais depuis les eaux qui envahissent ces bas-fonds jusqu'à la chambre de l'héroïne, tout à fait en altitude, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais en hauteur, isolée là-haut, là où va se passer peut-être, on ne sait pas, le pire. Donc un gros travail effectivement sur les décors, c'est presque un travail d'univers culturel qui est réalisé là par notre décorateur. La photographie qui va avec pour effectivement rendre compte de ces somptueux décors. Et puis, bien entendu, vous l'avez entendu, la musique. La musique, alors je me lance. La musique d'Hildur Guðnadóttir. Je l'ai fait. Alors, si vous voulez vérifier, vous allez sur l'article Wikipédia consacré à Hildur Guðnadóttir. Je le refais et vous entendrez la prononciation correct en pur islandais de ce nom à coucher dehors. Coucher dehors, je ne vous conseille pas dans les films dont il dure que la tortue fait la musique, puisqu'elle a fait la musique de Joker, le film de Todd Phillips 2019. Elle a fait également la musique de Sicario, la guerre des cartels. Mais le titre original est Sicario, Day of the Soldado, 2018, un film de Stefano Solima qui fout vraiment la trouille. Et puis Woman Talking, 2022, nous en avons entendu un extrait pour vous faire poser un petit peu au milieu de mes flots de paroles. Il s'agit donc de la musique originale du film de Sarah Polley 2022, Woman Talking, où là encore, nous retrouvons un thème qui nous poursuit dans les films dont cette musicienne a fait la musique, j'arrête, et que nous retrouvons effectivement, nous l'avons vu avec les enquêtes d'Hercule Poirot, vous avez un héros solitaire qui doit se dépatouiller du pire, un petit peu comme dans les tragédies de Sophocle, soit dit en passant. Et donc cette musicienne islandaise s'en sort plutôt bien, vous l'avez constaté, puisqu'elle sait mettre dans les films qu'elle illustre une tension qui est celle-là même de l'enquête, de la mission à réussir. Peut-être que cette enquête, que cette mission, c'est celle de la vie même, puisque nous sommes tous un petit peu des enquêteurs à chercher ce qui va bien pouvoir nous arriver. Enquête qui aboutit en général beaucoup moins bien que celle d'Hercule Poirot, puisqu'il semblerait que le mystère reste entier jusqu'au bout. Voilà, tant pis pour nous. Pas tant pis pour Kenneth Branagh, donc, qui trouve là l'occasion de faire de très bons films, tout à fait apaisants, nous l'avons dit. L'adaptation au cinéma dans A Haunting in the Night du crime d'Halloween d'Agatha Christie, cette adaptation à l'écran, est une véritable acrobatie. J'ai déjà eu, et puis à l'époque avec Cathy Géry, nous avons eu à maintes reprises l'occasion de nous rendre compte que chaque adaptation était un cas particulier d'adaptation. Il n'y a absolument aucune règle qui ait pu émerger de la quantité qui commence à devenir assez impressionnante des adaptations que nous avons étudiées. Il n'y a pas de règle. À chaque fois, un cinéaste se colle à un texte et en fait ce qu'il peut, ce qu'il veut, en général pour le plus grand bonheur des lecteurs et des cinéphiles. En général, ça donne lieu à un doublement du plaisir esthétique, à moins de stupides trahisons ou de baisse radicale de niveau. Je reviens à cette idée un peu bête de niveau, mais enfin, ça a pu se produire. Des adaptations d'Alexandre Dumas, par exemple, enfin, je ne sais pas, au hasard. J'aime beaucoup Alexandre Dumas. C'est le Proust de l'extériorité. Maîtrise parfaite du texte grâce à un personnage qu'on retrouve tout au long des adaptations de Kenneth Branagh. Il s'agit de Michael Green, qui est donc l'auteur des screenplays, des scénarii, en fait. Il est l'auteur des scénarii en compagnie, j'imagine, de Kenneth Branagh, et c'est de la haute voltige. La façon dont l'unité de temps va être transposée, dont l'unité de lieu est transposée, puisque, je l'ai dit, on passe d'un comté anglais à un palais vénitien, et l'unité d'action, enfin tout est conservé mais entièrement bouleversé. Mention spéciale donc pour cette dernière adaptation, Mystère à Venise, où des éléments de l'intrigue d'Agatha Christie, des éléments ont été en quelque sorte démontés, comme on démontrait un réveil, et réutilisés dans le film mais de manière complètement différente, comme si un mécanicien avait pris les pièces d'un moteur pour faire un autre moteur, et c'est absolument stupéfiant. Petit clin d'œil merveilleux d'ailleurs, à un moment donné, Hercule Poirot dans le film dit que nous sommes dans un Whodunit, donc dit que nous sommes dans un livre dont visiblement on a tout changé. Voilà, je ne saurais donc plus longuement vous conseiller d'aller voir ce film, Mystère à Venise de Kenneth Branagh, encore dans les salles au moment où j'enregistre, et puis le roman de Agatha Christie, Le crime d'Halloween, toujours dans les librairies, évidemment, aux éditions du Masque, ces jolies collections orange. Allez, ciao, ciao, bon film, bon livre. We get it almost every night when that moon is big and bright.